En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte sur un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jusqu'ici, notre lecture. Nous avons commencé déjà à aborder les « je suis » que Jésus avait déclaré dans l'évangile de Jean, les « je suis » avec les compliments. Nous avons déjà évoqué les deux premiers « je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur la déclaration de Jésus dans ces 10 premiers versets de l'évangile de Jean, du chapitre 10 de l'évangile de Jean, la déclaration suivante, « Moi, je suis la porte des brebis. » Comme nous l'avons déjà vu précédemment, l'expression « Moi, je suis » fait allusion ou renvoie au nom de Yahvé que Dieu, le Seigneur, avait révélé à Moïse lorsque celui-ci lui a demandé son nom pour aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Et donc, c'est une manière pour Jésus de dire le Yahvé de l'Ancien Testament, le Seigneur de l'Ancien Testament qui a accompli tant de délivrance, qui a accompli tant de miracles à l'égard de son peuple, c'est moi, je suis devant vous. En faisant allusion donc au nom de « je suis », en reprenant le terme de « je suis ». Donc, c'est ce Seigneur-là maintenant qui se proclame la porte des brebis. Cette déclaration de Jésus, bien sûr, s'inscrit dans un long discours. Nous avons lu qu'une petite partie, le début de ce discours. Et dans d'ailleurs ce discours, Jésus dira un autre « je suis ». Au verset 11 et au verset 14, il dira « je suis le bon berger ». Mais aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter uniquement sur l'expression « je suis la porte des brebis ». Comment comprendre cette parole de Jésus? Que veut dire Jésus par cette déclaration? Avant de vous suggérer deux manières possibles de comprendre cette parole de Jésus, je vous propose dans un premier temps d'examiner l'image de la porte ou la métaphore de la porte employée dans l'Ancien Testament, voir comment elle est employée dans l'Ancien Testament, et comment Jésus la reprend et l'applique à lui-même. Il y a deux épisodes qui sont, me semble-t-il, en lien avec notre texte, où la porte revient. Le premier, c'est dans la vie de Jacob, lorsque Jacob, après avoir volé, si vous vous rappelez, la bénédiction à son frère Ésaü, donc il a pris la fuite, il est parti, et à un moment donné, il était fatigué, le soleil commence donc à se coucher, et Jacob donc a décidé de passer la nuit. C'est dans Genèse 28 que nous trouvons cette histoire. Il nous est dit, Jacob prit l'une des pierres de lieu, la plaça sous sa tête, ou sous la tête, il se coucha en ce lieu. Il fait alors un rêve, un escalier était dressé sur la terre, son sommet touché au ciel. Les messagers ou les anges du Seigneur, de Dieu, y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Donc, dans cette première, occurrence où on trouve l'expression donc de la porte, Jacob, il l'interprète de la manière suivante. Il considère cette intervention, il voit que dans cette intervention où le Seigneur renouvelle à Jacob sa bénédiction, où il le rassure aussi de son soutien. Jacob donc se réveillait le matin et il déclara que ces lieux où il était ni moins que la maison de Dieu, et que ce lieu aussi c'est la porte du ciel. C'est là qu'on trouve la première porte désignée dans cet épisode, c'est la porte de ciel. À travers cette porte de ciel, Jacob donc se voit à nouveau assuré de la bénédiction du Seigneur et rassuré aussi de son soutien, puisqu'il vient de commettre un acte pas trop catholique. Il vient de voler un peu, de trahir un petit peu son frère, de voler la bénédiction à son frère en se faisant passer pour son frère. Donc, c'est aussi par la porte du ciel que le Seigneur a pourvu aux besoins de son peuple, en particulier la manne, lorsqu'il a donné la manne au peuple dans le désert. Et c'est le psaume 78, le psalmiste nous rappelle, lorsqu'il rappelle toute l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, il nous dit que le Seigneur donna des ordres aux nuages d'en haut, et il ouvrait les portes du ciel. Il fait pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et il donna le blé du ciel. Donc là, la deuxième reprise, la deuxième occurrence où on trouve la porte du ciel, c'est donc lorsque le peuple d'Israël reçoit la manne de la part du Seigneur. Le psalmiste interprète cela comme une intervention de Dieu, donc par cette porte du ciel. Donc là aussi, la porte du ciel est vue ou sert comme un passage de la bénédiction de Dieu pour son peuple. Un dernier texte où la porte du ciel est présentée comme un passage aussi de la bénédiction de Dieu, du Seigneur, c'est dans le livre du prophète Malachie, lorsque le Seigneur, par l'intermédiaire donc de son prophète, invite le peuple à apporter leur dîme dans la maison du Seigneur, il lui promet d'ouvrir les portes du ciel ou bien les écluses des cieux. Voilà, donc ça c'est la première utilisation, si on peut dire comme ça, de la porte du ciel qui est évoquée dans l'Ancien Testament. La deuxième porte évoquée dans l'Ancien Testament et que nous pouvons souligner ici, c'est la porte du temple. La porte du temple, je voudrais juste citer deux références, et dans les psaumes, les deux sont dans les psaumes. La première référence, c'est il s'agit de le psalmiste qui demande à la porte, aux portes du temple, de s'élever, de laisser le roi de gloire de faire son entrée, c'est dans le psaume 24, ce roi de gloire n'est autre que le Seigneur. Et la deuxième fois où la porte du temple, ou les portes du temple sont évoquées, c'est pour leur demander de s'ouvrir, c'est pour laisser le passage au roi David pour qu'il entre dans le temple pour adorer et pour louer le Seigneur. Je signale ces deux portes, la porte du ciel et la porte du temple, parce que ces deux images, aussi bien l'épisode de Jacob que le temple dans son ensemble, sont déjà méditées, exploitées par Jean dès le début de son évangile. À la fin du premier chapitre de Jean, Jean emploie l'image de l'échelle de Jacob pour présenter Jésus comme l'échelle permettant la communion avec Dieu. Et au deuxième chapitre, Jean présente aussi Jésus comme le nouveau temple de Dieu, le temple où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'image du temple est appliquée à Jésus, l'image de la porte du ciel est appliquée déjà à Jésus. Et à la lumière, me semble-t-il, de cet arrière-plan, nous pouvons maintenant essayer de réfléchir comment comprendre la déclaration de Jésus, « Je suis la porte des brebis ». Il me semble que cette déclaration peut se comprendre de deux manières. La première consisterait à dire que Jésus est la porte qui permet à ses brebis d'avoir accès à Dieu ou à la bergerie. Dans ce sens, on considère que Jésus s'adresse donc à ses brebis, les invite à le recevoir, à recevoir la bénédiction par excellence, à savoir donc le salut dont il est la porte qui donne accès. Donc Jésus appelle ses brebis à entrer par la porte pour recevoir le salut. La deuxième manière de comprendre cette déclaration, c'est de considérer que Jésus s'adresse aux bergers qui allaient paître le troupeau, son troupeau, en leur disant s'ils veulent avoir accès à ses brebis, s'ils veulent servir son peuple, s'ils veulent servir son église, ils doivent passer par lui. Ce serait donc une manière de dire que Jésus reste le berger de son troupeau et tous les autres serviteurs ou bergers ou pasteurs qui joueront donc le rôle pastoral auront les brebis du Seigneur, serviront les brebis du Seigneur dans la mesure où ils passent par le Seigneur qui est lui-même la porte de ces brebis. Il est vrai qu'au moment où Jésus délivrait cette parole ou ce discours, il n'était pas encore question des bergers ou des pasteurs de ce qui allait servir l'Église. Il était juste question des brebis. Par contre, là, il était question des croyants, de la formation du nouveau peuple de Dieu, un peuple de Dieu dans l'Ancien Testament qui est considéré quand même comme le troupeau du Seigneur. Donc, il était question de la formation d'un nouveau troupeau pour le Seigneur. À ce moment-là, il n'était pas encore question d'évoquer des ministères, si vous préférez, des serviteurs qui allaient donc servir le Seigneur. Mais en même temps, on pourrait bien supposer que Jésus avait cela aussi en tête, parce que dans le même discours, il dira qu'il y aura d'autres brebis qui ne connaissent pas encore, qui n'ont pas encore entendu ma voix. Ces brebis auxquelles il va falloir leur faire entendre la voix du Seigneur. Donc si le Seigneur avait pensé déjà à ce moment-là aux brebis futures qui allaient entendre la voix du Seigneur, on pourrait bien penser que le Seigneur aussi pourrait avoir dans son esprit à ce moment-là aussi les bergers qui allaient les servir. En tous les cas, ce sont les deux manières de comprendre que je vous propose, de comprendre cette expression que je vous propose ce matin. Commençons d'abord par Jésus, la porte pour les brebis. Jésus se présente dans cette déclaration comme la porte par laquelle les brebis peuvent entrer dans la bergerie et bénéficier de tous les bienfaits que cela implique. Entrer dans la bergerie n'est autre que de croire en Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui le chemin, le véritable, le vivant, c'est lui qui mène vers le Père, le dira un peu plus tard au chapitre 14. Et c'est de lui aussi que nous recevons la vie éternelle, ce qui a été dit déjà à bien des reprises dans les chapitres précédents, en particulier chapitre 3 et chapitre 5. Donc ce cadeau n'était pas seulement pour les auditeurs du temps de Jésus, puisque Jésus lui-même prévoyait qu'il y aura des brebis qui doivent entendre sa voix. C'est aussi donc un message, c'est un cadeau aussi pour les auditeurs de Jésus dans tous les temps. Mais comment on entend la parole de Jésus? C'est en ceux et celles qui se sentent que Dieu a mis à son service et qui ont proclamé sa parole, qui est l'Église aussi dans sa totalité, qui continue à témoigner et à faire entendre la voix du Seigneur là où Dieu la place dans le monde. Jésus dit ce que je disais tout à l'heure au verset 16 du même chapitre, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Et au verset 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est le plus grand de tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Voici la déclaration que Jésus et la promesse que le Seigneur nous fait ici. Le Seigneur Jésus, le bon berger, donc continue à faire entendre sa voix par la prédication de la parole. Et si, aujourd'hui encore, des personnes de passage qui n'ont pas répondu favorablement à cette invitation du Seigneur, qui n'ont pas encore répondu favorablement à cet appel du Seigneur, il est temps de le faire. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux avertit déjà, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car aujourd'hui peut-être aussi, un jour de salut pour quiconque croit en Jésus, pour quiconque accepte de passer par Jésus la porte pour avoir accès à la bergerie. Pour dire l'importance que chacune des brebis a aux yeux du Seigneur, Jésus a raconté une parabole, la parabole dite de la brebis perdue. C'est une histoire, il disait, si un homme avait 99 brebis et avait 100, et il avait perdu une, donc ce berger a laissé les 99 pour y aller chercher la centième. Et en conclusion de cette parabole, Jésus dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente, c'est-à-dire pour un seul pécheur qui se tourne vers lui, qui accepte, qui entre par lui, qui accepte le salut que Jésus offre. Il y a plus la joie pour ce pécheur-là qui se repente que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. En d'autres termes, il y a plus de joie pour une brebis qui rejoint le troupeau que pour celles qui sont déjà dans la bergerie, parce que celles qui sont déjà dans la bergerie bénéficient pleinement des bienfaits qui se trouvent dans cette bergerie. Ils sont déjà en sécurité et nous y reviendrons. Par toutes ces paroles, Jésus démontre l'importance qu'il accorde à ses brebis. Il démontre que chacune de ces brebis a une valeur inestimable à ses yeux. C'est des brebis pour lesquelles il a payé un prix fort, un prix inestimable. Et il a donné sa propre vie, lui qui est juste, et les morts, pour que les brebis soient sauvées, puis pour que des brebis puissent entrer dans sa bergerie, bénéficier de son salut. Donc en plus de cette importance que nous avons aux yeux du Seigneur, il y a aussi les bienfaits que Jésus accorde, gratuitement bien sûr, à quiconque croit en lui. C'est-à-dire celles qui entrent dans la bergerie bénéficient des bienfaits. Le premier de ces bienfaits que je veux mentionner ici, c'est le salut. Au verset 9 de notre texte, Jésus, le texte que nous avons lu, Jésus dit clairement, « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il sera sauvé de quoi ? Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, avec toute l'illusion de la toute-puissance qu'on pourrait penser avoir, on se demanderait, mais de quoi Jésus veut nous sauver ? Jésus veut nous sauver tout simplement de notre condamnation, parce que cela même avec toute notre technologie et notre intelligence, nous ne pourrons pas nous sauver par nos propres efforts, car le salaire, nous dit la Bible, de péché, c'est la mort. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux aussi disait qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a le jugement. Un homme ne peut pas se racheter par ses propres moyens. Il y a un prix à payer. Le seul qui a payé ce prix, c'est Jésus. Et c'est en Jésus seul que nous pouvons bénéficier donc de cette justification dont nous avons besoin pour recevoir le salut éternel. Et ce salut, bien sûr, nous donne le pardon de nos péchés. Jésus a donné, c'est lui le bon berger, le berger qui a donné sa vie pour ses brebis et pour que les brebis y aient lavé la vie en abondance. C'est ce qu'il dira au verset 10. Voilà donc le salut, c'est le pardon de nos péchés, être déclaré juste devant le Seigneur et le pardon de nos péchés, avoir la vie et la vie en abondance. La deuxième chose dont bénéficie celui qui croit en Jésus, c'est de rentrer, de sortir librement de la bergerie. Il y a la liberté de circuler entre la sécurité de la bergerie et la jouissance des bons pâturages à l'extérieur. Le Seigneur avait promis par le prophète Ézéchiel de paître ses brebis dans des bons pâturages, comme nous l'avons lu au début de notre culte. Et David lui-même, dans son célèbre psaume, nous dit qu'il avait goûté au pâturage du Seigneur, que le Seigneur est son berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vers, de verts pâturages. Les verts pâturages symbolisent la vie en abondance, la vie éternelle, la vie que nous recevons avec Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Christ, nous mettons notre foi en Jésus-Christ, et là nous recevons cette vie. Nous la recevons ici-bas, mais nous la recevons aussi pour toujours, parce que c'est la vie éternelle dont il est question. En plus du bon pâturage, les brebis peuvent entrer librement. On dit dans la bergerie, en fait, c'est dans l'enclos. Une fois donc elles sont fatiguées, les brebis peuvent rentrer dans la bergerie. Elles seront en sécurité. Elles seront en sécurité car le bon berger, cette fois-ci, veillera sur elles. Il ne les abandonnera pas, il ne laissera aucun voleur venir lui ravir ses brebis. Il ne perdra aucune d'entre elles. Oui, il gardera toutes ces brebis que le Père lui a données. C'est ce qu'il a déjà dit au chapitre 6, dans les versets 37 et 39. Même si les voleurs et les brigands chercheront, employeront toutes leurs forces pour venir, pour ravir ces brebis, mais ils n'y parviendront pas parce qu'elles seront en sécurité, parce que celles-ci seront rattachées au Seigneur, au bon berger, le bon berger qui est prêt à se donner sa vie pour les préserver et les garder. Ainsi, les brebis rassemblées autour du bon berger bénéficient des deux choses dont les brebis ont besoin pour prospérer et pour avancer. La nourriture en abondance, d'une part, et la sécurité totale, d'autre part. Donc si nous ne faisons pas encore partie de la bergerie du Seigneur, si nous ne sommes pas encore des brebis du Seigneur, il est temps de bénéficier de ces deux assurances, la vie en abondance, la nourriture en abondance et de la sécurité totale que Jésus, le bon berger seul, peut les assurer ou les accorder. La deuxième manière de comprendre l'expression de Jésus « Je suis la porte des brebis », comme je disais tout à l'heure, c'est de considérer qu'elle s'adresse aux serviteurs du Seigneur, à ceux qui allaient se mettre à paître le troupeau de Dieu. Et parmi ces serviteurs, on peut distinguer justement deux catégories de serviteurs, deux catégories de bergers. Une catégorie de bergers qui acceptent très volontiers de passer par Jésus pour servir les brebis, mais une autre catégorie de bergers, une deuxième catégorie de bergers qui visiblement préfèrent aller directement vers les brebis sans passer par le berger. Jésus nous donne des éléments pour faire la différence justement entre ces deux catégories de bergers. La première différence consiste dans la manière d'entrer dans la bergerie ou l'enclos, si vous préférez, car dans le Proche-Orient, au temps de Jésus, chaque berger ne disposait pas d'une bergerie propre à lui. Ils avaient, c'est pas en tout cas une bergerie comme un bâtiment, ce qu'on pourrait entendre de notre temps. Ils avaient aussi des enclos, ils étaient nombreux à ramener leurs bêtes ou leurs brebis le soir, à les faire entrer dans un grand enclos. Il y a un portier qui les garde, et puis le lendemain, le portier ferme la porte, il garde l'enclos, et le lendemain, les bergers reviennent et prennent les brebis et les ramènent, enfin, ils les conduisent vers des verts pâturages. Bien sûr, chaque enclos, donc, a un gardien, et une fois que les brebis sont rentrées le soir, le gardien les garde. Et pour le matin, les bergers viennent presque tous ensemble, ou en tous les cas à la même période, parce que lorsqu'il fait très chaud, il faut sortir les brebis très tôt pour pouvoir rentrer vers les 9h du matin parce qu'il y a trop de soleil. Et donc à ce moment-là, donc ils viennent à peu près à la même heure pour faire sortir les brebis et chacun appelle et les brebis les suivent. Donc il n'y avait pas besoin d'embaucher une police pour séparer les brebis des uns et des autres. Il se fait juste que les bergers partent et qu'ils appellent leurs brebis, et leurs brebis reconnaissent leur voix et les suivent. Donc, dès le début de ce discours de Jean, Jésus donne le temps. Il dit, celui qui n'entre pas par la porte est un voleur, est un brigand. Donc toute personne qui ne passe pas par la porte est un voleur, est un brigand. C'est la première différence que Jésus souligne. Le berger, le vrai berger, celui qui a des brebis dans cet enclos, peut venir, il passe par la porte et il appelle ses brebis, les brebis le suivent. Mais le voleur, il ne passe pas par la porte, il va préférer plutôt d'escalader les murs et d'entrer, d'y accéder directement à l'enclos. Donc contrairement au berger, les voleurs ne viennent pas par la porte, car d'une part, le portier ne va pas leur ouvrir la porte, et d'autre part, les brebis ne vont pas les suivre, car elles ne reconnaissent pas sa voix. La deuxième différence entre le berger et le voleur, c'est la manière dont ils sont à l'intérieur de l'enclos. Le berger fait entendre sa voix, et ses brebis reconnaissent sa voix, ils viennent à sa suite. Ainsi, elles se distinguent spontanément des autres brebis appartenant aux autres bergers. Mais tel n'est pas le cas du voleur. Une fois à l'intérieur de l'enclos, il essaye par tous les moyens de s'emparer des brebis. Peut-être dans un premier temps, il va essayer des moyens un peu light, comme on dit. Il va essayer d'imiter la voix de leur berger. Il va essayer de se faire passer pour le berger. Mais les brebis vont reconnaître sa voix, donc elles ne vont pas le suivre. Mais après cela, le voleur passe à la vitesse supérieure. Et donc il va essayer d'employer toutes ses forces pour les faire sortir avec violence. Et donc les traiter sans aucun ménagement. La troisième différence entre les bons bergers et les voleurs, ou les bergers selon le cœur du Seigneur et le mercenaire qu'on peut souligner dans ce texte, se trouve dans leur relation, même dans leur relation avec le troupeau de Dieu. Le bon berger trouve du pâturage pour ses brebis. Il abreuve son troupeau, il prend soin de son troupeau, il protège son troupeau des loups et de toute forme de danger. Il soigne les brebis, celles qui sont malades. Il veille sur chacune d'entre elles. Quant aux mauvais bergers, ils font le contraire de tout cela. Ce qui les intéresse, c'est de se servir des brebis, et non pas de servir les brebis. Et dans le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel 34, qui est en arrière-plan de tout le texte de Jean, de Jésus, dans Jean 10, voici ce que le Seigneur reprochait déjà à l'époque aux conducteurs, aux bergers du peuple, ce que le Seigneur leur reprochait. Je lis à partir du verset 2, « Malheur aux bergers d'Israël, qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives et à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bondé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par violence et par tyrannie. Mes brebis se sont dispersées faute de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. Les bons bergers passent par le Seigneur, par le bon berger, par Jésus pour servir les brebis. C'est-à-dire, ils restent des serviteurs fidèles, demeurent fidèles à leur Seigneur, au bon vrai berger, au berger de tous les temps, au berger de l'Église, du troupeau, comme nous l'avions chanté au début du culte. Les bons bergers, ou les bergers selon le cœur du Seigneur, restent fidèles à cette à leur Seigneur. Ils cherchent à servir le Seigneur et non pas à se servir du nom du Seigneur pour dépouiller les brebis. Mais ils attendent et ils sont là à l'écoute du Seigneur et à l'écoute des brebis pour servir les brebis, pour servir l'Église. De tels serviteurs sont reconnus aussi par les brebis. Les bergers, selon le cœur du Seigneur, les brebis les reconnaissent, reconnaissent en eux la voix de leur Seigneur, de leur grand berger, de leur bon berger. Ils ne se sont pas autoproclamés, mais ce sont les brebis qui les ont reconnus. Et les brebis reconnaissent en elles l'appel que Dieu leur adresse par leur intermédiaire. Et enfin, l'Église accompagne de tels bergers, de tels serviteurs et de telles servantes. L'Église les accompagne dans l'accomplissement de la tâche que le Seigneur leur a confiée, dans la responsabilité qui est la leur. Et les accompagne aussi spirituellement dans la prière. Et aussi, elle les accompagne financièrement. Elles prennent soin d'eux aussi. Et elles marchent, bien sûr, à leur suite, à la suite de leur appel, dans la mesure où cet appel est conforme à celui du bon et vrai berger, notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à ceux qui ne veulent pas passer par Jésus-Christ pour servir l'Église, ils doivent savoir qu'ils veulent passer directement vers les brebis pour se servir des brebis plutôt que de les servir, doivent savoir qu'ils courent un réel danger et qu'un jour, ils vont devoir rendre compte de leurs agissements. Et dans le contexte de Jean 10, les voleurs et les brigands sont les pharisiens, désignés juste à la fin du chapitre 9, car ces pharisiens, justement, viennent de jeter dehors l'aveugle, cet aveugle que Jésus vient de guérir, à qui Jésus vient de rendre la vue. Jésus, le bon berger, guérit une brebis malade, et voici les conducteurs religieux à l'époque, les autorités religieuses, les pharisiens, rejetaient des brebis qui avaient besoin d'être guéries, alors qu'ils auraient dû eux-mêmes prendre soin de cette brebis. Et en cela, ils ont rejeté une personne que Jésus lui-même a accueillie dans sa bergerie, puisque cet homme a confessé sa foi en Jésus-Christ. Et il le dit explicitement au chapitre 9, dans les versets 35 à 38, où il dit « Je crois en toi, Seigneur ». Et Jean précise que l'aveugle n'est pas resté simplement à cette confession « Je crois en toi, Seigneur », mais il dit qu'il adore, il a commencé à adorer le Seigneur. Les pharisiens, visés ici par Jésus, font le semblant de ne pas comprendre le message de Jésus. Et pourtant, ils connaissent bien tous ces textes des prophètes, en particulier le texte du prophète d'Ézéchiel, 34 que nous avons lu, et aussi de Jérémie. Je ne me rappelle plus le chapitre, mais je crois que c'est 33, mais je reviendrai. Donc, le prophète Jérémie, où il est question des faux bergers, des mauvais bergers. Donc, ces pharisiens connaissent tout cet arrière-plan, ils peuvent très facilement comprendre que Jésus est en train de les viser, mais ils font le semblant, en tous les cas, de ne pas comprendre. Comme je disais, Jésus s'est servi de chapitre 34 pour dénoncer leur comportement à l'égard du peuple. Tout comme les conducteurs religieux au temps d'Ézéchiel se servaient du peuple, au lieu de servir le peuple, les pharisiens font de même. Les pharisiens ne se souciaient pas du bien-être des personnes. Ils ne prennent pas le temps de soigner les malades. Au contraire, ils veulent rejeter d'or l'aveugle que Jésus avait guéri, comme je viens de le dire. Ce qui préoccupe ces bergers qui ne sont pas selon le cœur de Dieu, ce qui les préoccupe au plus haut point, ce sont leurs apparences de paraître. Pour être bien vus parmi les hommes, ils aiment prier debout devant tous les hommes. Ils aiment dire « Nous avons jeûné trois fois par... Nous avons jeûné deux jours par semaine. Nous avons prié trois fois par jour. J'ai donné l'aumône. » C'est comme ça l'homme les deux hommes que Jésus racontait, l'histoire que Jésus racontait de ces deux hommes montés au temple, hein, il disait, moi, je suis Dieu, sache que je suis réglo avec toi. Et l'autre lui dit, Seigneur, aie pitié de moi. Et Jésus nous dit que c'est celui qui demandait pitié à Dieu qui est reparti justifié aux yeux de Dieu. Dès le début de l'Église, l'apôtre Paul a dû combattre des faux docteurs qui voulaient introduire dans l'Église des enseignements qui ne sont pas conformes à l'enseignement de notre Seigneur, du bon berger. Et ces faux enseignants, ces faux bergers, ne cherchent que leur propre gloire. Ils se servent de l'Évangile pour se faire un nom. Et hélas, leurs propres intérêts passent avant ceux de l'Église. Il arrive encore, malheureusement, de nos jours, d'entendre, ici ou là, des comportements qui ne sont pas tout à fait loin de ceux décrits chez Ézéchiel, ou bien dénoncés par Jésus, ou dans les Épîtres par l'apôtre Paul. Il arrive encore d'entendre que certains font de l'Évangile leur fond de commerce, et que certaines missions, ce qui les intéresse, dites entre guillemets chrétiennes, ce qui les intéresse, c'est avant tout leur propre business. Dans certaines églises, et j'ai regardé cela très rapidement sur Internet, le culte tout entier tourne autour de l'argent. Les cultes, et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas une question d'aborder la question des offrandes, de la dîme. Bien sûr, il faut y réfléchir, et la parole nous parle de cela. Il n'y a aucun complexe à avoir par rapport à l'argent. Mais parler de l'argent dimanche après dimanche, cela me semble quand même peut poser problème. Car il me semble que les cultes sont là avant tout pour parler de notre Seigneur et lui rendre gloire à lui. Le Seigneur nous a prévenus, gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent d'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voici ce que Jésus nous a déjà dit dès le début dans le serment sur la montagne. Le Seigneur nous a bien avertis qu'il y aurait des faux docteurs, des faux prophètes qui voudront se faire passer en son nom. Ils pourront même accomplir au passage des miracles. Mais le Seigneur nous dit de faire attention. C'est à nous d'avoir le souci de vérifier, d'examiner toutes choses, d'être vigilants dans notre foi. Examinons ce que nous entendons à la lumière de la parole que notre berger nous a laissée, comme le faisaient autrefois les chrétiens de Bérée dans Actes chapitre 17. Jésus est la porte des brebis. Ceux qui veulent le servir, ceux qui veulent servir les brebis, ont le devoir de se mettre sous l'autorité de ce grand berger, de se soumettre à lui, de se laisser diriger par lui, par son enseignement. Jésus est la porte des brebis. Nous deux, nous pouvons venir tels que nous sommes, même chargés et fatigués. Et il nous donnera le repos dont nous avons besoin. Il nous accordera la vie et la vie en abondance. Les pâturages ne manqueront pas et l'assurance ne manquera pas. C'est le Seigneur qui nous accueille et qui fait encore aujourd'hui cet appel, qui appelle encore aujourd'hui à tout homme à se tourner vers lui, à croire en lui et à entrer ainsi dans sa bergerie pour avoir la liberté d'entrer et de sortir avec l'assurance de salut et aussi avec l'assurance d'avoir toujours du pâturage, la vie en abondance. Amen.